Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Nous voulons encore une fois dire merci à Dieu qui nous donne cette opportunité de venir dans sa présence, venir l'écouter, venir l'adorer. Prions. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants pendant lesquels tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, et que nous soyons transformés par ta parole, que nos familles soient transformées, que notre société soit transformée et que notre vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Nous lisons le premier verset jusqu'au 17e. Nous allons aussi lire trois versets en Matthieu, chapitre 6, du 25e verset jusqu'à 34. Nous allons choisir certains versets que nous allons lire là-bas. Je conduis la lecture dans les livres d'Exode, le chapitre 20. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans les ciels, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Tu n'évoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui évoquera son nom pour tromper. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre et que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Matthieu chapitre 6, le verset 25 dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou bien de quoi allons-nous nous vêtir? Le verset 33 et 34, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole de Dieu, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette année 2025, nous sommes en train de parler de la parole à l'action, rester intègre et fidèle à Dieu. Ceci est notre thème annuel du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nous avons écouté la parole de Dieu. Il est temps maintenant de sortir de l'écoute de la parole de Dieu et d'aller vers l'action. Vivre la parole de Dieu en action. Et ceci, nous sommes appelés à demeurer intègres, nous sommes appelés à demeurer fidèles à Dieu. Et pendant les deux mois, février et mars, nous sommes en train de parler des promesses et d'alliances. Nous parlons du Dieu des promesses. C'est Dieu qui est fidèle à ses promesses et c'est Dieu avec qui nous avons une alliance. Et donc, nous voulons nous amener à vivre les promesses de Dieu dans l'alliance avec lui sans entrave, sans tâche. La prédication de ce jour, nous allons parler de trois petits points. Le premier point concerne qui ou avec qui sommes-nous en alliance? Avec qui sommes-nous en alliance? Et là, nous allons constater que nous sommes en alliance ou à partenariat inégal, c'est-à-dire deux parties qui sont en alliance, mais deux parties inégales. Il y a un fort et un faible. La deuxième partie, nous allons parler des 10 paroles. Les 10 paroles que nous venons de lire en Exode, et nous allons les résumer comme Jésus-Christ les avait résumées. Et enfin, nous allons entrer en pratique de cette parole. Nous devons nous souvenir des promesses de Dieu et ne pas nous emporter par les soucis de la vie parce que le Seigneur prend soin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons commencer par l'alliance. Le mot alliance peut encore avoir comme synonyme convention. Accord, traité. Les gens se mettent ou s'assoient, ou signent, ou mettent des lois, et chacun s'engage à respecter la partie qui lui revient comme responsabilité. Et si vous lisez bien la Bible, on dit on conclut une alliance. Le verbe conclure l'alliance peut signifier couper. Ça veut dire dans le monde du Moyen-Orient et pendant l'écriture de la Bible, quand il s'agissait de faire une alliance, on prenait un animal.
On les coupe à deux. Une partie d'un côté et une autre de l'autre côté. Et les deux personnes engagées dans cette alliance devraient passer au milieu de ces deux parties. La signification de ça, c'était que si tu n'es pas fidèle à cette alliance, c'est toi qui seras coupé comme cet animal. C'était la signification. Et donc, l'alliance, on pouvait avoir des avantages et chacun devait avoir ce qu'il va tirer de cette alliance-là. Alors, ici, dans les textes que nous avons lus, si vous avez bien suivi la lecture, le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, il dit, je vous rappelle que c'est moi, votre Dieu, qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Moi, votre Dieu, par la force, par ma main puissante, je vous ai fait sortir de l'Égypte où vous étiez en esclavage. Ça veut dire, avant qu'il ne donne des lois, avant qu'il ne donne la convention, il se présente, le peuple doit d'abord savoir qui est celui qui va nous donner des lois. Avec qui nous allons marcher ensemble. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et moi, votre Dieu, je vous y ai fait sortir. Il se présente comme le Dieu fort, le Dieu libérateur, le Dieu qui a eu pitié de ce peuple. Alors la partie qui va suivre, il commence à donner des lois. Vous savez, dans une société, s'il n'y a pas de loi, il y aura du chaos. Ceux qui roulent des voitures sur la chaussée, ils savent. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui viole les codes de la route. Il y aura déjà des embouteillages. Et ces embouteillages vont vous amener à vous injurier les uns les autres. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Alors pour que l'harmonie règne dans la route, il faut qu'il y ait un code de la route. Et chaque personne qui roule sur la route devra savoir lire les signes du code de la route pour éviter des injures, ou pour éviter de retard, pour éviter des embouteillages inutiles. Alors quand Dieu donne, il décide de donner son alliance ou la loi, ça veut dire qu'il est en train d'organiser la vie de son peuple par une ligne de conduite, afin que le peuple d'Israël puisse vivre en harmonie. Et pour son propre bien. Ce n'est pas le bien de Dieu, c'est le bien du peuple. Parce que Dieu est souverain quand il te donne la loi. Si tu violes cette loi, lui ne perd rien. C'est toi qui vas perdre dans ton harmonie et dans tes relations avec ce Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, l'alliance que nous avons avec Dieu, nous devons y aller tout en sachant avec qui nous faisons cette alliance. Le Dieu de la grâce, mais aussi le Dieu qui punit lorsque vous n'avez pas été capable de respecter cette alliance-là. Pour dire que notre alliance avec Dieu est inégale. Contrairement à d'autres alliances qui se font, et les gens peuvent se partager des avantages d'une manière égale. Mais ici, il y a un fort et il y a un faible. Le fort, c'est Dieu, il s'impose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il le dit. Mais toi à qui il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'as pas le droit de lui répliquer, lui dire, toi aussi tu ne béniras personne sans que je ne le dise. Il va faire ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait, c'est bon pour lui. Et il nous interdit même des choses que lui-même fait. Mais si nous, nous les faisons, c'est péché. Si vous avez lu le verset 3, pas le verset 3, mais la troisième loi, là où il dit, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux qui punit. La jalousie, c'est un péché, non? La jalousie, c'est un péché. Si tu es jaloux de ton frère, de ta soeur ou de ton voisin, c'est un péché. Mais Dieu, lui, il se donne le luxe de dire, je suis un Dieu jaloux. Je ne peux pas permettre qu'il y ait un autre Dieu à mes côtés. C'est pourquoi nous ne devons pas chaque fois kujilinganisha na Mungu. Parce que lui, notre comportement, il nous donne ce que nous devons suivre, mais il n'est pas obligé de le suivre. Mais il part avec nous dans cette manière-là de gérer le monde, sa manière de gérer le comportement des gens. Il a une ligne de conduite dans laquelle il nous place. Ça veut dire, la loi que le Seigneur nous donne lui permet de nous fournir un cadre aux relations que nous devons avoir, nous, avec lui, mais aussi et beaucoup plus de relations que nous devons avoir entre nous. Et cela permet que l'ordre puisse régner dans la société. Pour que la société soit en ordre, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour que chacun de nous vive en paix, envers lui-même et envers les autres. Et quand nous vivons en harmonie entre nous, la gloire revient maintenant à celui qui nous a donné l'ordre de vivre en harmonie. Et pour cela, nous pouvons prendre notre deuxième point, les 10 paroles que le Seigneur maintenant, il est en train de prononcer. Il le dit à Moïse, afin que Moïse aussi puisse le dire au peuple d'Israël. Il y a 10 paroles que vous avez suivies ou que vous avez peut-être apprises quand vous étiez dans la classe de baptême. Et c'était une question peut-être qu'on avait posée à quelqu'un pour qu'il soit baptisé. Les 10 paroles. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Peut-être avant d'y arriver, il faudrait que je dise, quand nous vivons et quand nous marchons avec Dieu, certaines inquiétudes de la vie, certains contextes, où le lendemain était certain, nous pousse à violer toujours la loi de Dieu ou l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que nous voulons chercher des solutions à nos problèmes de notre manière. Parce que notre lendemain est incertain. Parce que notre aujourd'hui est compliqué et difficile. Et la situation que nous traversons et qui dépasse notre attendement, quand nous voulons chercher des solutions, nous sommes ou nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu ne te feras pas d'idole pour que tu te prosternes devant ces idoles-là. Il dit, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Et il dit, tu dois te souvenir du sabbat. Parce que je suis ton Dieu, moi aussi, quand j'ai créé, Je me suis reposé le jour du sabbat. On ne sait pas si à quoi ça nous concerne. Celui qui a créé, s'il était fatigué, c'est lui. Et pourquoi maintenant il nous dit aussi de nous reposer? Si on n'est pas fatigué alors, c'est pour mettre à part un temps. Dieu te donne 6 jours pour faire ton travail et un autre jour, un seul. Il te dit, ce jour-là, tu dois t'asseoir, raisonner, faire l'introspection, voir la grandeur de Dieu et lui faire un culte. Et comme ça, tu ne peux pas faire un ouvrage. Tu ne feras aucun travail. Il y a un problème que nous avons dans la vie. Lorsque nous cherchons des solutions à nos problèmes, souvent nous prononçons les noms de notre Dieu en vain. Tu peux faire du mal. Et après avoir fait du mal, parce qu'on ne t'a pas attrapé en train de faire ce mal, et tu remercies le Seigneur ton Dieu, tu dis « Seigneur, merci parce qu'on ne m'a pas attrapé. Tu as été avec moi et je bénis, je t'ai béni. » Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se souviennent de ce qu'ils ont fait et aujourd'hui ils se disent « Si on m'attrapait ce jour-là, que serais-je aujourd'hui ?» Ah, en tout cas, Mungu Kombinguni. Ça, c'est prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu trompes par le nom de l'Éternel. Tu prononces le nom de Dieu dans ce que tu fais et qui ne plaît pas à Dieu. C'est prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Sixième commandement, il dit, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais aussi, tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton prochain. Ça, ce sont les 6 derniers. Les 10 commandements sont subdivisés à 2. Les 4 premiers régissent les relations que tu as entre toi et Dieu. Les 6 derniers régissent les relations que tu as entre toi et le prochain. Ceci signifie quoi? Jésus, à Matthieu, il avait dit, il avait répondu à quelqu'un qui lui avait posé la question, quel est le plus grand commandement parmi les 10 commandements? Jésus avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus venait de subdiviser les 10 commandements à 2. Ça veut dire, si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas te faire des idoles et te prosterner devant elle. Il y a souvent des erreurs que nous commettons quand nous chantons des cantiques, peut-être parce que nous ne savons pas. Dieu ne peut jamais être comparé. Il y a souvent des cantiques que nous chantons « Hakuna Mungu kama wewe ». Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, bwana. Des cantiques comme ça montrent que nous avons d'autres dieux devant la face de Dieu. Nous avons des idoles devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu dis Hakuna Mungu kama wewe, ça veut dire il y a plusieurs autres dieux, mais parmi lesquels Hakuna Mungu na kufiki. Il faut dire, si vous lisez Louis II, la Bible dit, il n'y a point de Dieu, sauf, ça utilise le mot sauf, pas comme. En swahili, on utilise le mot ila, pas kama. C'est différent. Ila wewe, c'est sauf toi. Kama wewe, c'est comme toi. Or, kama et comme sont des mots de comparaison. Donc, si tu aimes Dieu, tu ne chanteras plus ça. Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Si tu aimes Dieu, tu ne te feras pas d'idole et te prosterner devant elle. Si tu aimes Dieu, tu ne prononceras pas son nom en vain par des mensonges et des tromperies. Vous mêlez le nom de Dieu dans vos faiblesses, dans votre manière d'être, dans vos péchés. Si tu aimes Dieu, tu vas te souvenir qu'il est le Créateur et que le septième jour, il s'est reposé. Et que ce jour-là, si tu l'aimes, tu dois le consacrer à adorer ton Dieu, celui qui a créé pendant 6 jours. Et parmi les 6 jours, tu es parmi ceux qui ont été créés le 6e jour. Et tu dois l'aimer. Ça, c'est l'amour de Dieu, de toutes tes forces, toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu vas te consacrer à ce Dieu-là. La deuxième partie, si tu aimes ton prochain, parce que la deuxième partie, ce sont les prochains, les relations entre les voisins. Si tu aimes ton prochain, tes parents font partie aussi de ton prochain. Si tu aimes tes prochains, tu vas honorer ton père et ta mère. Pendant la guerre et pendant des moments difficiles que nous traversons, nous sommes dans des inquiétudes et peut-être les parents ne sont pas en mesure de nous fournir ce dont nous avons besoin. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas taquiner nos parents parce qu'ils n'ont pas été en mesure de nous donner de la bouillie. Nous avions l'habitude de manger 3 fois par jour. Maintenant, c'est difficile, c'est 1 fois et demie. Oui, 1 fois et demie. Alors, si tu aimes tes parents, si tu aimes ton prochain, tes parents, tu dois les honorer même dans cette situation. Nous ne devons pas aimer nos parents parce qu'ils ont été capables de répondre à nos besoins. Mais au moment où ils n'ont pas été aussi capables, nous sommes appelés à les aimer et à les honorer. Tu ne tueras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit d'ôter la vie. Et cette personne s'appelle Dieu. Dieu qui nous a donné la vie, il est le seul qui a aussi l'autorité de nous ôter la vie. Lorsque tu peux te mettre et tu décides d'ôter la vie de quelqu'un, quelle que soit sa faute, tu n'aimes pas ton prochain et là, tu viens d'aller à l'encontre de la loi de Dieu dans la société. Il y a des gens qui ont la facilité de tuer les autres. Tu peux tuer quelqu'un parce que tu lui as ôté la vie, mais tu peux aussi tuer quelqu'un par la parole que tu lui as adressée. Tu peux tuer quelqu'un parce que tu t'es mal comporté devant lui, mais il fait semblant de vivre. Mais la parole que tu lui as adressé a déjà transpercé son cœur. Pour ne pas être tueur, pour ne pas être criminel, nous devons aussi regarder ce qui vient de nos bouches. Qu'est-ce que j'ai dit à ma femme? Qu'est-ce que j'ai dit à mon mari? Qu'est-ce que j'ai dit à mes enfants, à mes parents et aux autres avec lesquels nous sommes dans la société? Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras point d'adultère. Pendant la guerre ou pendant des moments des inquiétudes, il y a des comportements qui nous arrivent, des comportements que nous n'avions pas peut-être ou qui étaient cachés en nous. Quand on est en inquiétude, quand on est stressé, quand on est frustré, il y a certaines personnes qui deviennent hypersexuées. Toi qui ne t'inquiétais même pas du sexe, mais tu t'inquiètes beaucoup du sexe. Ça peut être ça peut être quelque chose qui montre que tu es frustré. Il y a d'autres qui ne s'inquiètent même pas. Et il est possible qu'avec l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, que tu te prostitues parce que tu cherches de la nourriture que tu vas donner à tes enfants le soir. Et tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu. Et quand on fait l'adultère ou quand on fait la débauche, ce n'est pas synonyme de l'amour. Nous devons chaque fois différencier aimer et convoiter. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », c'est quelqu'un qui est du sexe opposé. Quelqu'un te dit « je t'aime », tu es une femme, une fille. Prends soin de lui demander « tu m'aimes ou tu me convoites ?» Pourquoi? Parce que celui qui t'aime, l'amour tel que défini dans la Bible, c'est celui qui t'aime, il s'engage à se sacrifier pour toi. Et il ne peut pas te faire du mal. Donc celui qui t'aime ne cherche pas d'intérêt chez toi. Il cherche ton intérêt, toi. Alors si quelqu'un te dit « je t'aime », demande-lui, tu m'aimes ou tu me convoites? Comme ça, quand il va te dire je t'aime ou je te convoite, ça va dicter la suite du dialogue. Ça va dicter la suite du dialogue. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est très important. Nous ne devons pas chaque fois confondre l'amour à la convoitise. Oui, si c'est l'amour, vivez cet amour-là. Si c'est la convoitise, repentez-vous. Je ne vous dirai pas de vivre la convoitise. Si tu aimes ton prochain, tu ne voleras point. Tu ne voleras point, c'est bien. Pendant des moments difficiles de la vie, il est possible que quelque chose t'arrive, ou la guerre arrive, on doit nous confiner dans nos maisons. Tu n'as rien à manger. Mais tu apprends qu'on vient d'ouvrir la boutique de chez Cassé. Tu apprends qu'on vient d'ouvrir, je ne sais pas où, un dépôt quelque part. Pas mais autre chose. Et tu te dis, en tout cas, si je ne fais rien ici, ah, va toi, ton itawakulish à Nini. Ou bien moi, qu'est-ce que je vais manger? Et vous allez, parce que vous voulez chercher la solution vous-même à votre problème. Vous cherchez la solution vous-même à votre problème. Et vous allez voler. Voler signifie quoi? Dérober. Ça signifie prendre quelque chose qui ne vous appartient pas sans autorisation. Prendre quelque chose qui ne vous appartient pas sans autorisation, on dit que vous êtes voleur. Les jours qui sont passés, il y a une journée que j'avais passée sans la joie. Parce que je me dis, il n'y a pas une avenue à Goma où il n'y a pas d'église. Toutes les avenues, ce sont des églises. Et ces églises-là prêchent le salut en Jésus-Christ. Malheureusement, les gens qui remplissent ces églises, ce sont ces gens qui sont allés remplir. Hein? Est-ce qu'ils sont allés remplir? Ils sont allés remplir les avenues pour vider ce qui appartient aux autres. Et les dimanches, ils sont venus prendre la Sainte Seine. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux être parmi ces gens-là, que le Seigneur te pardonne. Que tu demandes pardon à Dieu, un pardon sincère. Tu n'as pas besoin de justifier ces comportements. Oui, tu avais faim. Avant que cette situation n'arrive, qui te nourrissait? Et si tu es allé prendre quelque chose là, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Qui est en train de te nourrir maintenant? Ça montre que le Baba Ika Kabore. Le Seigneur nous dit que le lendemain, c'est entre ses mains. Entre ses mains et le lendemain, nous n'avons pas besoin de nous faire du mal. Lorsque tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas et peut-être sur laquelle le propriétaire aussi fixait les yeux, quand tu viens de prendre cette chose-là, tu viens aussi de tuer. Un voleur, c'est un tueur. Ils ne sont pas différents. Un voleur, c'est un criminel. Oui. Comme aussi, celui qui a tué quelqu'un, c'est aussi un voleur. Parce que tu n'avais pas droit à prendre la vie d'autrui. Mais tu prends la vie d'autrui sans autorisation. Si cela t'arrive dans ton cœur, de dire, en tout cas, je peux tuer quelqu'un, demande-toi si c'est Dieu qui vient de te le dire. Comme il avait dit à Job, il avait permis à Satan de faire du mal à Job. Mais il lui avait dit, mais il ne faut pas ôter sa vie. Et le diable a respecté ce que Dieu avait dit. Il n'a pas ôté la vie de Job. Si le diable peut respecter ce que Dieu a dit, et toi maintenant, toi qui es enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les inquiétudes de la vie nous amènent à violer la loi de Dieu. Nous amènent à violer la loi de Dieu. Il faut te mettre à la place de ceux-là qui ont été victimes. Nous avons tous été victimes psychologiquement, mais il y a ceux-là qui ont été touchés par des balles, il y a ceux-là qui ont été touchés par ces sous, ceux-là. Mets-toi à la place de cette personne. Comme nous avons été parmi ceux qui peuvent aller prendre les choses. Si ces gens-là aussi pouvaient sortir de chez eux pour venir prendre chez moi, est-ce que tu peux te mettre à cette place-là? Tu es aussi voleur si tu as été content lorsque tu as appris qu'on a pillé chez quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as des problèmes avec quelqu'un et tu as écouté que sa boutique l'a aussi dévalisée. Et dans ton cœur, tu as dit, gloire au Seigneur. Tu dois aussi demander pardon à Dieu parce que tu as tué, tu as volé. Si tu aimes ton prochain, tu ne porteras pas de faux témoignages contre lui. Les commérages, de faux témoignages contre lui, il y a des choses qui se passent parce que les gens ne s'aiment pas. Il y a des gens qui s'intimident les uns les autres et qui s'envoient des messages d'intimidation. Tu peux aussi porter de faux témoignages contre quelqu'un et au vieux les prendre parce que tu as porté de faux témoignages contre quelqu'un. Oui, la loi est là et elle punit ceux qui sont coupables. Si quelqu'un est coupable, il peut être puni, mais pas les innocents. Mais pas un innocent. Et malheur à toi si tu es à la base de ce qui peut arriver à quelqu'un parce qu'il a été innocent et que c'est ton cœur qui n'est pas bon envers cette personne-là. La Bible a dit que Dieu, il punit jusqu'à la quatrième génération. Le comportement que tu affiches aujourd'hui, tu peux être victime mais aussi ta descendance jusqu'à la quatrième génération. Et ce n'est pas quelque chose à encourager. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle ce matin à revoir comment nous vivons encore ce loi. Si tu aimes ton prochain, Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Ça, ça va de pair avec le vol et les autres choses. Notre troisième point, et le dernier, si les inquiétudes nous envahissent dans notre vie, nous devons nous souvenir que notre Dieu, il est le Dieu des promesses et il accomplit ses promesses. C'est pourquoi il a dit, il a commencé par se présenter. Il a commencé par dire ce dont il était capable. Le Seigneur, pourquoi vous avez crié au Seigneur? Nous avons crié au Seigneur parce que nous savons ce dont il est capable dans notre vie. Lorsque nous sommes envahis par l'inquiétude, si nous cherchons des solutions de notre manière et surtout de manière que nous puissions violer la loi de Dieu, cela montre que nous remettons à cause l'honnêteté et la fidélité de Dieu. Et c'est un grand péché. Ne pas reconnaître la grandeur de Dieu. Ne pas reconnaître que c'est Dieu qui me nourrit. Ne pas reconnaître que c'est Dieu qui fait ceci ou cela. C'est très grave dans la vie de chacun de nous. Je ne voudrais pas quand même finir sans m'adresser. Ça m'adressait aux gérants des COPEC, des banques, je ne sais pas où, des coûts. Aujourd'hui, c'est grave. Alors, si c'est grave, tu es gérant d'une des petites choses là où on donne de l'argent et on vient avec des intérêts. Dans cette situation, et nous allons encore devant la porte de quelqu'un pour lui rappeler que le mois est arrivé, il doit rembourser. Non, la loi nous permet de vivre en harmonie à société. Oui, nous devons apprendre à vivre en harmonie à société, Vandugwa Pensi, et nous mettre à la place de l'autre. Nous pouvons quand même nous asseoir, tu es du membre du COG, tu peux quand même aller dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos membres fidèles? Ils ne sont pas seulement nos membres fidèles quand tout va bien, mais quand ça ne va pas, ils sont aussi membres fidèles. Soyez aussi fidèles à eux. Et allez dire, bon, ok. Si vous êtes béni, souvenez-vous que vous avez une dette. Alléger aussi le pourcentage. Parce que sinon, après, ça va, les choses vont chauffer. Oui. Mettons-nous à place les uns des autres. À place les uns des autres. C'est très important. Souvenons-nous que lorsque nous vivons des inquiétudes, Dieu prend soin de nos besoins physiques, émotionnels, psychologiques et spirituels. Nous ne devons pas nous laisser envahir par l'inquiétude. Oui, mettons notre confiance en Dieu qui pourvoit à nos besoins de toutes sortes. Oui, travaillons. Le Seigneur, il sera avec nous lorsque nous travaillons sous sa loi et il promet qu'il va nous nourrir. Il sera avec nous. Oui. Que nos inquiétudes ne nous amènent pas à violer l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le lendemain. La Bible a dit à Matthieu, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? Ça ne signifie pas que nous ne devons plus travailler pour le lendemain. Mais la minute qui suit, ce n'est pas toi qui es le maître, c'est Dieu qui est le maître de la minute. Le lendemain, c'est Dieu lui-même. La Bible dit en Apocalypse que Dieu était, il est et il vient. Ça veut dire il est au passé, il est au présent et il est au futur. Nous connaissons notre hier, peut-être aussi notre présent, mais nous ne connaissons pas notre lendemain. Mais nous avons crié à Dieu qui est le maître du passé, du présent et du lendemain. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir crainte, parce que celui qui est le maître du lendemain, il est dans notre vie, nous le connaissons et il restera fidèle dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.